Chapitre 17. L'homme Jésus le Christ. Voici l'homme, dit Pilate, Jean 19:5. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur est si clairement décrit dans son humanité, de sa naissance à sa mort, que maintes personnes n'arrivent justement pas à comprendre ce fait. Comme tout autre homme, il est né dans ce monde, a été emmailloté dans des langes et placé dans une crèche, Luc 2:7. Il a mangé et bu. Il a été fatigué et a dormi. Il a pleuré et prié. En mourant, Jésus s'est écrié d'une voix forte, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et ayant dit cela, il expira. Luc 23:46. C'est en tant que substitut pour nous tous, parce qu'il prenait notre place et que, par conséquent, il devait expérimenter d'une manière concrète notre séparation d'avec Dieu, qu'il s'écria « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27:46. C'est nous qui étions abandonnés de Dieu. Il prit notre place et nos fautes et nos péchés furent chargés sur lui. En ce moment même, Dieu, l'Esprit, se retira de lui. Sans contredit, lorsqu'un instant plus tard, la lance pénétra son côté et que son précieux sang coula pour notre pardon, cette parole s'accomplit. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5:19. Ces deux choses donc sont exactes. Tout d'abord, la séparation d'avec Dieu, puis la réconciliation. C'est à cause de nous, hommes pécheurs, que tout cela était nécessaire. Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Romains 8:3. L'Écriture nous relate également comment l'envoi de cet oint devait avoir lieu. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Galates 4:5. Le Seigneur éternel est devenu un serviteur. Mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Philippiens 2:7-8. En tant que serviteur, il nous est décrit en relation avec l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Dans le prophète Ésaïe, nous voyons le plan du salut exposé très clairement, jusque dans les détails. Dans ses écrits, nous trouvons la notion du serviteur. Voici mon serviteur que je soutiens. « Mon élu, en qui mon âme trouve son plaisir, je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. » Ésaïe 42:1. Ce même passage est cité dans le Nouveau Testament en Matthieu 12, 17-21. Il y est dit « Afin que fût accompli » ce qui a été dit par Ésaïe, le prophète. Il a donc trouvé son accomplissement en ce temps-là. Nous apprenons dans Matthieu 3 de quelle manière l'approbation de Dieu est venue sur l'homme Jésus-Christ. Et Jésus, ayant été baptisé, remonta aussitôt de l'eau. Et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Matthieu 3, 16-17. Le corps de Jésus était mortel. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu devait venir sur lui pour revendiquer la transmutation de ce corps et le placer dans l'immortalité. En même temps, eut lieu son établissement dans le service. C'est cela dont Pierre rend témoignage dans Actes 10, 38. Dans Matthieu 17, 2 à 5, nous est présentée la transfiguration de son humanité en divinité et à la parole prononcée dans le chapitre 3 par laquelle Dieu avait déclaré avoir trouvé son plaisir en lui est ajouté « Écoutez-le !» Les véritables fils et filles de Dieu l'écoutent. Ils croient l'évangile de Jésus-Christ. Ils se font baptiser de la façon biblique et reçoivent le Saint-Esprit de la même manière que le premier-né. Car c'est ainsi que Dieu lui-même rend témoignage d'avoir trouvé en eux son plaisir. L'homme, créé à l'image de Dieu, avait été doté du libre arbitre, qu'il utilisa pour prendre la mauvaise décision, et c'est ainsi qu'il se perdit. Puisque Dieu avait créé l'homme faillible, il dut prendre lui-même la responsabilité de son salut. Dans la nouvelle création amenée à la vie à travers Christ, l'approbation de Dieu repose sur tous les fils et filles de Dieu de la même manière qu'elle reposa sur le premier-né. Ils ont été retirés de la chute et placés dans la position divine. Lors de l'achèvement, il sera manifesté que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre et que c'est de leur propre volonté qu'ils ont pris la libre détermination de faire la volonté de Dieu selon l'exemple du premier-né. Non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Matthieu 26, 39. Et c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Psaume 48. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconcilié dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui. Colossiens 1, 21-22. Puis donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Hébreux 2, 14, 15. C'est là le magnifique message de l'Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Nous voyons dans l'Ancien Testament le plan du rachat se profiler comme une ombre des choses à venir au travers des divers sacrifices ainsi que du culte et des descriptions symboliques. Lorsque l'homme se trouva séparé de Dieu, il ne pouvait plus entrer en sa présence. Il avait besoin d'un sacrifice d'expiation, d'un médiateur, d'un intercesseur ou d'un souverain sacrificateur. Tout d'abord, ce furent des personnes individuelles qui donnait une indication sur le Messie à venir, comme par exemple Abraham par le sacrifice de son fils Isaac, Genèse 22, préfigurant le Fils de Dieu qui devait mourir par notre faute. Isaac porta le bois sur lequel il allait être placé plus tard comme sacrifice. Cela nous parle de Christ portant la croix sur laquelle il fut ensuite cloué. Jusqu'à la sortie de l'Égypte, l'Éternel Dieu s'adressait à la postérité d'Abraham en tant que peuple d'Israël. Mais depuis le temps de son rachat et de sa libération, Exode 12, Israël est alors désigné comme assemblée. Moïse s'avança comme médiateur et intercesseur dans diverses situations. C'est lui qui apportait la parole de Dieu directement au peuple de Dieu. Celui-là, Dieu l'a envoyé pour chef et libérateur par la main de l'ange qui lui était apparu au buisson. Actes 7, 35-36. Le Messie devait être un prophète, un médiateur, un intercesseur, un souverain sacrificateur, etc., etc. Moïse agissait déjà par l'Esprit de Christ lorsqu'il intercédait pour le peuple, disant « Et maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, sinon efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. » Exode 32-32. Moïse portait le peuple de Dieu sur son cœur et c'est pourquoi il intercédait en sa faveur. Une fois par année, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, devant la face de Dieu, pour faire l'expiation pour lui-même d'abord, puis pour le peuple. Hébreux 9, 7. Depuis le verset 11, il est écrit au sujet de Christ. Mais Christ, étant venu souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Mais avec son propre sang est entré une fois pour toutes dans les lieux saints célestes, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cette rédemption éternelle fut rendue possible parce que Christ s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Combien plus le sang du Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Verset 14. C'est probablement dans le livre de Job qu'est décrite de la manière la plus frappante ce qu'est un intercesseur. Bien qu'auparavant, Job se soit déjà écrié « Je sais que mon Rédempteur est vivant » et qu'il ait été persuadé de voir Dieu de ses propres yeux. Job 19, 23, 27. C'est Élihu qui fit ressortir la nécessité d'avoir un intercesseur, c'est-à-dire un médiateur. S'il y a pour lui un messager, un interprète, un entre mille, pour montrer à l'homme ce qui, pour lui, est la droiture, il lui fera grâce et il dira « Délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une propitiation. Alors sa chair aura plus de fraîcheur que dans l'enfance. Il reviendra au jour de sa jeunesse. » Job 33, 23 à 25. Remarquez qu'ici, il n'est pas seulement question d'un intercesseur et d'une rançon, mais bien de la délivrance de l'homme tout entier dans laquelle l'âme, l'esprit et le corps sont inclus. Lors de la première résurrection, les rachetés seront réellement rétablis dans la fleur de leur jeunesse. Ils seront dans un état d'absolue perfection. Il n'y aura plus rien d'imparfait, ni de nourrisson ou de vieillard, mais tous les rachetés auront pour toujours le même âge, sans aucune trace de péché, de maladie ou de vieillissement. Job a fait le portrait d'un homme conscient de ce qu'il peut se tourner vers Dieu en disant plus loin, « Il suppliera Dieu et Dieu louera pour agréable, et il verra sa face avec des chants de triomphe, et Dieu rendra à l'homme sa justice. » Job 33, 26. Il s'agit de la parfaite justice que Dieu nous a donnée en Christ. C'est à un tel homme que s'applique cette parole. Il chantera devant les hommes et dira « J'ai péché et j'ai perverti la droiture, et il ne me l'a pas rendu. Il a délivré mon âme pour qu'elle n'alla pas dans la fosse, et ma vie verra la lumière. » Nous qui sommes devenus des croyants du Nouveau Testament avions aussi besoin d'un souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Hébreux 4, 15. Nous avions aussi besoin d'un médiateur, car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, 5, 6. Comme en Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous seront rendus vivants. 1 Corinthiens 15, 22. Le premier homme est tiré de la terre, poussière. Le second homme est venu du ciel. Tel qu'est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière. Et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 47-49. Ici, Christ est présenté à nos yeux comme étant l'homme céleste, le dernier Adam, à l'image duquel nous serons transformés. Partout où nous voyons Jésus-Christ auprès de Dieu, il nous est montré en tant qu'homme, réalisant une tâche qui était nécessaire pour l'accomplissement de la délivrance de l'humanité. Nous le voyons ainsi comme fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, comme roi et prophète, comme souverain sacrificateur, comme médiateur, intercesseur, comme agneau de Dieu, parole de Dieu, chemin de Dieu, pain de Dieu, etc., etc. La doctrine de Jésus seul n'est pas davantage attestée par les apôtres et les prophètes que ne l'est la doctrine de la Trinité. La raison en est simplement que Dieu voulait placer l'homme dans un rapport de filiation divine, c'est-à-dire qu'il voulait, de l'homme pécheur, faire des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est devenu le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, 29. Après sa résurrection, Jésus dit à Marie de Magdala, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17. De même que le Fils de Dieu a été engendré par l'Esprit, nous devons nous aussi faire l'expérience de la nouvelle naissance par l'engendrement de l'Esprit. C'est une obligation absolue que le Seigneur Jésus a requise pour l'entrée dans le royaume de Dieu lorsqu'il dit « en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3:6. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. 1 Jean 5:4. Toutes les actions religieuses sont vaines, car c'est Dieu qui doit agir. Sinon, absolument rien ne se fait. Cependant, Dieu ne peut agir qu'en ceux qui reconnaissent son action dans le Fils pour leur salut. Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Car est celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant « J'annoncerai ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. » Hébreux 2:10-12. Psaume 22:23. Le Sauveur ressuscité qui appelle ses disciples frère est appelé par Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean 20:28. Jusqu'à ce que les fils et les filles de Dieu soient parvenus à la perfection, Jésus-Christ demeure auprès du Père comme intercesseur. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. 1 Jean 2:1-2. Le même apôtre écrit encore, « Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. » 1 Jean 3:1-2. L'apôtre Paul parle aussi de cet achèvement. « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Psaume 110:1. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort, car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Psaume 8:7. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que c'est à l'exclusion de celui qui lui a assujetti toutes choses. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15:25-28. On ne peut dire ces choses plus clairement. Lorsque la tâche du Fils sera accomplie, que tous les fils et filles de Dieu auront été transformés à son image et seront arrivés à la perfection pour l'éternité, que tous les ennemis auront été anéantis et la mort abolie, alors Dieu sera de nouveau tout en tous. Dans l'éternité, il ne sera plus question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De même qu'il n'en était pas question auparavant, mais ce sera à nouveau comme il en était avant le commencement des temps. Dieu, tout en tous. Amen.